grande brise du Mbujimayi au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Dans un communiqué publié au mois d'avril dernier, les associations et groupes d'experts de lutte contre la drogue et toxicomanie indiquent que près de 2360 sites et réseaux de consommation et trafic de diverses drogues ont été localisés à Kinshasa. Lors de sa 66e session de l'Assemblée générale des Nations Unies du mois de juin de cette année consacrée à la lutte contre la drogue, la RDC a été classée dans la catégorie des pays très vulnérable. Et à marge de la journée internationale de lutte contre la toxicomanie célébrée chaque 15 octobre, Parole aux auditeurs aborde cette problématique. Que proposez-vous pour combattre efficacement les réseaux de trafic et consommation de drogue à travers le pays? Nous en parlons avec M. Pini Moké, président national du comité interministériel de la lutte contre la drogue et expert de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes. J.R. Lungembo, Tati Mapuku, Jean-Noël Mokondo sont à la réalisation de cette émission présente par Pierrot et la Mégie sous la supervision de Nicole Ngaka. Vous avez besoin d'intervenir, appelez-nous au 081 890 43 39. C'est le numéro d'appel pour les directs fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, heure de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi de 11 à 12h, et mercredi dès 10h, heure de Kinshasa.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Monsieur Pini Moké, bonjour et merci d'avoir accepté encore une fois de plus l'invitation de Radio Okapi.
Bonjour monsieur le journaliste.
Nous parlons de la lutte contre la drogue, toxicomanie, c'est en marche. Bien sûr, cette journée, vous avez suivi l'introduction. Nous avons eu ce communiqué de l'association des experts, les associations et groupes d'experts de lutte contre la drogue au mois d'avril dernier qui ont indiqué dans un communiqué qu'on a plus de 2000 sites et réseaux de consommation, mais aussi des trafics de diverses drogues à Kinshasa. On peut dire par rapport à vos 24 communes que cette situation est inquiétante.
Oui, effectivement. Vous savez que si nous parlons simplement de chambres à fumée, qu'on appelle techniquement cannabis, nous allons voir que dans la ville de Kinshasa, la consommation a augmenté. Ce qui est vrai parce que nous constatons que dans presque chaque avenue à Kinshasa, s'il n'y a pas un vendeur de cannabis, il y a un consommateur. Nous avons un problème sérieux, le fait que le cannabis ou le chanvre indien, dans notre pays, il le pousse à l'état sauvage et il est en même temps planté. Et à travers toute la République, toutes les provinces, vous trouverez le cannabis indien, vous trouvez le cannabis, le chanvre indien, c'est-à-dire il est planté et en même temps, il le pousse en état sauvage. Donc c'est un problème extrêmement sérieux. Et pour peut-être, pour des personnes qui voudraient qu'on puisse dépénaliser le cannabis par rapport aux autres pays, notre problème pose un problème sérieux. Le fait que nous avons un climat tropical et le cannabis a des effets très très nocifs. Et il est même considéré comme une drogue dure.
Mais à part le cannabis, quelles sont encore, quelles catégories de drogues encore sont concernées par cette situation en RDC?
Oui, dans notre pays, nous avons évidemment aussi la drogue exotique, telle que la cocaïne, l'héroïne. Ce sont des drogues qui sont importées pour être vendues. Je crois que si tout marche bien le samedi, nous allons procéder à l'incinération de drogue que nous avons saisie.
Le cannabis ou bien y compris aussi la cocaïne.
Le cannabis, cocaïne et héroïne, mm-hmm. ainsi que certains produits toxiques que nous avons également saisis. Mm-hmm. Nous devons détruire et incinérer ça ce samedi.
Mm-hmm, voilà. Et ça, c'était l'introduction par rapport à la situation qui est inquiétante, vous l'avez dit, au moins sur chaque avenue à Kinshasa. S'il n'y a pas quelqu'un qui vend du cannabis, il y a au moins quelqu'un qui consomme. Mais nous allons dans cette émission avec les auditeurs dégager les pistes des solutions et voir aussi quelles sont les expériences qu'on peut tirer dans la lutte contre ces phénomènes, que ce soit contre les trafics, la consommation, tout cela. Nous allons en parler avec les auditeurs qui sont déjà en ligne, comme Théodore qui est à Mbujimaï, au Kasaï oriental. Bonjour Théodore. Théodore, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi notre invité, comment il a introduit, la situation est plus qu'inquiétante hein, par rapport au trafic de ces différentes drogues et leur consommation. Alors, mais nous dégageons les pistes et solutions dans cette émission, ce qui peut être fait dans nos milieux, là où vous êtes en Mbujimaï par exemple, vous connaissez bien la situation, qu'est-ce qui peut être fait pour lutter efficacement contre ces réseaux, tous ces trafics?
Merci pour la parole. Je crois que la drogue, comme stupéfiant, n'inspire pas confiance aux utilisateurs. Dans la population, il y a les gens qui prennent de drogue. Il y a des fois des tangawisi mal préparés, bien préparés de manière à faire exciter quelqu'un à commettre soit la débauche. Il y a aussi du café. À l'excès, par exemple, il y a d'autres Nganda qui mélangent du café parce qu'on a trouvé quelqu'un dans un Nganda. On dit qu'il a pris du café, en prenant cela, on lui a présenté les toilettes. Vous savez, ici, les toilettes, il y a d'autres toilettes indigènes. Lui, il prend le pain, au lieu de mettre le pain à l'entrée, il va prendre le pain pour mettre dans les trous. Alors, vous voyez qu'il excède dans ce café-là. Alors, il y a aussi des stupéfiants comme du diazépam. On peut prescrire pour un malade, mais quand on prend ça à part excès, mm-hmm. ça désoriente quelqu'un à faire des histoires impossibles. Alors pour moi, pour combattre la vente de différentes drogues, l'État doit descendre à la base, faire participer les chefs de rue, les chefs de cellules, les chefs de quartier, envie de décourager tous les vendeurs qui chavrent surtout en prévoyant les amendes à leur charge. Ouais, aujourd'hui, par exemple, les chanvres, à l'époque, on les prenait à cache-cache. Aujourd'hui, les chanvres, on les prend au stade de foot, en pleine route, et vous voyez, les militaires, les policiers, trouver quelqu'un qui prend du chanvre, on n'interpelle pas ces messieurs, on laisse, et des fois, ils ne parlent pas eux-mêmes à ça. Alors, nous interpellons l'État à prendre des mesures, descendre à la base, pour vraiment appréhender les gens par des amendes, afin de diminuer ces pratiques de drogue.
Merci Théodore, vous êtes en bougement. Vous avez d'ailleurs évoqué, au-delà même de ce que nous avons cité ici, vous avez parlé de produits, des médicaments, qui, comme les diazépam par exemple, qui sont aussi achetés dans des pharmacies, que les gens utilisent pour se droguer, du tangawisi, du café mélangé à des substances aphrodisiaques et autres. Alors, mais vous proposez la sensibilisation. À côté de la sensibilisation, vous pensez aussi qu'il faut la répression pour tous ceux-là qui seront surpris, soit en train de consommer, soit commercialiser les différentes drogues. Merci beaucoup Théodore Dembujimaï. J'adore, vous êtes à Lubero, c'est dans la province du Nord Kivu. Bonjour.
Bonjour Pierrot et la Meji, bonjour tous les auditeurs de la radio Kapi, c'est Jado Kachouva depuis Masereka Lissousouti, la territoire de Lubero, province du Nord Kivu. Mmh. Évidemment, comme on parle de la drogue, des effets de la drogue, c'est une situation que nous vivons aussi ici chez nous à Lissousouti. Et aussi, le pourquoi peut-être, c'est presque la jeunesse qui se donne à cette consommation abusive de la drogue. Et pourquoi cela? Il y a des problèmes d'ordre sécuritaire, certains, des ex-soldats, enfin soldats, ils ont été là, on leur a entraîné à consommer de la drogue. Certains d'autres, ils s'adonnent parce qu'ils n'ont pas du travail, c'est faux fouillable. Les gens se réfugient dans la consommation de la drogue parce qu'ils pensent qu'ils seront calmes, ils sont stressés. Autant de causes poussent la jeunesse à se donner à la drogue. Mais il y a aussi plusieurs sortes de drogues que nous voyons ici. Il y a par exemple les boissons fortement alcoolisées qui sont commercialisées ici, on vit aussi de tout le monde, quelles que soient les mesures d'interdiction. Il y a des usines qui ont ouvert leurs portes ici. Par exemple, la Beigne, c'est très proche de nous. Il y a des usines qui produisent de boissons fortement alcoolisées qui se vendent dans des caoutchoucs. Et alors, un jeune peut en acheter, il peut aller consommer à n'importe quel milieu, il ne sera plus contrôlé de ses parents. Il y a beaucoup, il y a le cannabis, ici on l'appelle le banji, c'est en langue locale. Alors, les gens s'adonnent pour fuir. Alors, pour qu'on arrive à éradiquer ce problème-là, parce que cette consommation abusive a des conséquences graves sur la santé humaine. Les médecins, ils parlent de la cirrhose de foie. Par exemple, pour ceux qui consomment des boissons fortement alcoolisées, il y a des troubles mentaux qui vont attaquer quelqu'un juste après lorsqu'ils consomment des cannabis avec abusivité. Donc, tout cela sont des conséquences négatives sur la santé humaine et on est en train de perdre des gens qui pouvaient aider le pays à avancer. Ils se donnent et ils ne réfléchissent très bien, ils ne réfléchissent plus très bien et ça cause des problèmes d'ordre social et il y a
oui,
aussi
oui, mais là, Jado,
qui s'impose.
Voilà, Jado, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Oui.
Pour résoudre, qu'est-ce qu'il faut faire, oui. Nous devons travailler à synergie. Les médecins, ils doivent en tout cas être financés de façon qu'ils passent à une sensibilisation très grande. Vous savez, dans les temps, il y avait ce qu'on appelait les agents de sensibilisation sanitaire qui étaient presque dans tous les villages. Ces gens-là, ils ne se retrouvent plus aujourd'hui. Et donc, ces gens-là doivent être financés pour que ces gens, lorsque quelqu'un tombe, par exemple, malade, qu'on profite de cette occasion pour lui expliquer les grands problèmes qui résident de la consommation abusive de cette drogue.
Oui.
Il y a aussi les médecins, par exemple, qui consomment même le tabac. Imaginez, il y a des journées internationales de lutte contre la consommation du tabac. Mais il y a des médecins qui consomment du tabac. Et quand on va en parler, on dit, mais pourtant les médecins aussi en consomment. C'est vouloir nous interdire. Donc, tous ces gens doivent être sensibilisés et le pouvoir public doit aussi être trop rigoureux à la livraison des licences d'exploitation. Comment comprendre que le pouvoir public donne des licences d'exploitation à des maisons qui vont produire des boissons fortement alcoolisées et des gens qui vont commercialiser? Imaginez, par exemple, dans la ville de Boutembo, lorsque j'ai été audit, on accuse les femmes des militaires d'être des vendeurs de cannabis. Alors, imaginez ces gens-là, ils sont intouchables. Un chef de cellule ne peut jamais arrêter une femme militaire. Ça
voilà.
Pose un problème.
Merci beaucoup, Jado. Voilà. Merci beaucoup, Jado.
Il doit voir comment interdire ces problèmes.
Voilà, merci Jado, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur la ligne. On retient, vous avez donné beaucoup d'exemples. Vous avez évoqué d'ailleurs la situation des boissons alcoolisées. On a vu plusieurs mesures à Kinshasa par rapport à ce qu'on a appelé le whisky en sachet. Nous allons voir avec notre invité où en sommes-nous, les sociétés qui les fabriquent et ceux qui les commercialisent. Mais vous insistez sur les campagnes, les fausses campagnes de sensibilisation, mais à côté de cela, il y a aussi la déstabilisation de la sensibilisation. Si jamais les leaders d'opinion sont concernés, vous dites qu'on ne peut pas aujourd'hui dire aux gens que les tabacs tuent. Quand on voit par exemple un médecin fumer en public, celui qui peut être sensibilisé peut se décourager parce qu'il voit le médecin en train de fumer. Vous posez le problème des femmes hein, de militaires dans des camps militaires, vous dites qu'ils commercialisent les cannabis par exemple à Beni, mais ça serait difficile de pouvoir pénétrer dans ces camps pour pouvoir lutter contre ces fléaux, ces phénomènes. Merci pour toutes ces mesures. Dans l'ensemble, vous pensez que ça peut aider à mettre fin à ces phénomènes. Nous avons Séraphin qui est à Ouvira au sud qui vous. Bonjour Séraphin.
Oui, bonjour Tonton Pierrot ainsi qu'à votre invité.
Vous avez suivi les propositions de Théodore et Jadot. Qu'est-ce qui peut être fait au-delà de tout ce qu'ils ont dit pour lutter efficacement contre ces fléaux?
Bon, merci de l'opportunité de m'accorder encore une fois depuis que je suis passé à votre émission. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et l'invité et les autres auditeurs qui sont passés avant moi. À ma connaissance, c'est très bien qu'au niveau de notre pays, il n'y a pas un marché officiel de vente de drogue. Ça, c'est ce que je connais. Et à mon humble avis, je pense d'abord sur le plan interne. Il doit y avoir des efforts qu'on doit amener, surtout au niveau des autorités du pays. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, comme je vous l'avais dit, au niveau de notre pays, il n'y a pas un marché officiel pour vendre les drogues. Donc l'État doit répertorier tous ces marchés noirs qu'on est en train de vendre les drogues et essayer un peu de réprimander ce marché-là. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est sur le plan interne. Et sur le plan externe, je proposerai à ceux que l'État puisse appliquer la politique d'externalité négative Et quand on parle de l'externalité, c'est lorsque la décision d'un agent économique influe sur l'activité de notre agent économique. Donc, c'est-à-dire quoi? Les importateurs de drogue dans notre pays, l'État doit les décourager afin qu'ils ne puissent plus importer des drogues qui ne sont pas produites au niveau de notre pays, qui ne puissent pas importer dans notre pays pour la commercialisation. Là, ça sera une mesure efficace au niveau de notre État. Alors, au niveau de l'extérieur, comme je vous l'ai dit, parce qu'au niveau de nos frontières, dans toutes les frontières de la République démocratique du Congo, je constate qu'il y a une légèreté totale. Il y a même des biens, et des drogues, et d'autres biens qui passent dans des frontières sans même des contrôles préalables. Moi, je vous donne un exemple parce que personnellement, je viens du Kampala, où j'ai traversé la frontière entre Ouganda et Rwanda, la frontière de Katuna. Lors d'un bus qu'on a pris avec un monsieur là, un monsieur avait des drogues. Mais au niveau du Rwanda, lorsqu'on a fouillé tous les bagages, on a retrouvé qu'il y avait des drogues. Il y a un monsieur qui avait amené des drogues à provenance de Kampala et il voudrait faire traverser ça au niveau de la République démocratique du Congo. Heureusement, au niveau de la frontière de Katuna, donc du côté rwandais, on a découvert que ce monsieur avait des drogues et on l'a ravi, on a arrêté ce monsieur-là. Mais pourquoi ça ne peut pas se faire dans notre pays? Au niveau de notre pays, on entre dans des frontières, donc on accède facilement dans des frontières, donc c'est comme si les frontières sont devenues pourries dans notre pays. Donc il est important que notre gouvernement puisse appliquer cette politique que je vais dire, la politique d'externalité négative, afin de décourager tout cela qui importe des drogues dans notre pays, qui ne puisse plus importer dans notre pays, afin de privilégier aussi la santé humaine.
Voilà, merci beaucoup, Séraphin. Vous insistez beaucoup sur les frontières de la RDC. Hein. Il faudrait d'abord répertorier les maisons, les sites de vente de drogues de manière interne et pouvoir réprimer, mais aussi voir comment renforcer le contrôle au niveau des frontières pour voir qui s'occupe de ces marchés noirs d'importation des drogues sur le sol congolais. Nous avons ingénieur Mango et Madame Judith qui est ingénieur Mango à Kinshasa, Madame Judith à Kananga. Vous allez garder la ligne, on va revenir à vous pour que vous puissiez aussi commenter ces sujets hein, autour de la lutte contre la drogue, le temps que notre invité, après quelques secondes, puisse répondre d'abord, faire un commentaire par rapport aux propositions de ces premiers groupes d'auditeurs.
Parole aux auditeurs organise une série d'émissions sur les institutions provinciales. Chaque mercredi,
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, heure de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi de 11 à 12h, et mercredi dès 10h, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Monsieur Billy Moke, vous avez suivi notre premier groupe d'auditeurs. Ils ont ramassé presque l'ensemble des problèmes qui se posent, que ce soit les substances qui sont consommées dans leur milieu, mais aussi des pistes, des solutions. Mais au niveau du comité interministériel, eu égard à ce que les auditeurs ont dit, comment la politique est-elle menée pour lutter efficacement contre tous ces réseaux, tous ces sites et tous ces trafics?
Merci, monsieur le journaliste. Je remercie également nos intervenants parce que il y a M. Théodore Ambujuma qui a touché un point là sur la sensibilisation et la répression. Il est vrai que dans les stratégies de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue, il y a quatre dimensions. La première dimension, c'est la sensibilisation. Il y a des gens qui consomment, peut-être parce qu'ils sont dans l'ignorance. Alors, il faut leur parler. Il faut leur montrer les conséquences néfastes de la drogue. Et dans cette sensibilisation, ce n'est pas seulement le comité interministériel de lutte contre la drogue et le crime organisé qui doit le faire, mais il y a aussi les parents. Les parents doivent s'impliquer parce que, comme l'autre invité a dit encore pour la jeunesse, la jeunesse, elle est très vulnérable pour la drogue. Donc, il faut la sensibilisation, sensibiliser ces jeunes-là. Les parents, les écoles, les églises. Et, effectivement, aussi, le gouvernement. Nous, le comité interministériel de lutte contre la drogue. Et dans la sensibilisation, nous avons également certaines ONG qui travaillent toujours dans le cadre de la lutte contre l'abus de drogue. Alors, ceux qui ne veulent pas, après la sensibilisation, ceux qui ne veulent pas écouter, ceux qui sont têtus, eh bien, l'État est là. Cela devient deuxième étape que nous appelons la répression. C'est-à-dire, nous devons réprimer, arrêter ceux qui violent la loi. Parce qu'il y a la loi qui existe. Au niveau national, nous avons des lois qui existent. Au niveau international, il y a le pays, notre pays, la RDC, qui a signé des conventions des Nations Unies sur le stupéfiant de 1961, sur les substances psychotropes de 1971, sur le stupéfiant et psychotrope de 1988, et dernièrement la convention de Palerme, qu'on appelle la convention sur la criminalité transnationale organisée. Parce qu'on a constaté que la plupart des crimes tirent leur origine dans la consommation de
la drogue. Oui, voilà.
Alors, troisième étape, c'est la désintoxication. C'est pourquoi, dans le comité interministériel, nous avons également le médecin qui sont les psychiatres, ceux qui s'occupent de la santé mentale. Parce que celui qui est devenu toxicomane, on ne peut plus l'arrêter, le mettre au cachot. Il devient un malade mental. Il faut nécessairement qu'on puisse le soigner. Alors, la dernière étape, c'est la réinsertion sociale. Celui qui a été toxicomane, il est traité, il revient à l'état normal. Il ne faut pas le laisser dans le chômage. Parce que sinon, il va rechuter. Parce que parmi les causes qui poussent les gens à consommer, il y a aussi le chômage. Alors, voilà les quatre étapes qui sont les solutions pour que nous puissions lutter efficacement contre l'abus et trafic illicite de drogue.
Mais quand on a écouté Jado de Lubero, il dit qu'ici, il y a par exemple à Beni dans des camps militaires dommage qu'on dit. Selon ce qu'il dit, on accuse les femmes de militaires des fois de pouvoir commercialiser la drogue et ça devient un problème difficile quand il s'agit par exemple des hommes de la loi, en fait des hommes en uniforme qui sont impliqués dans la consommation. Vous avez suivi, l'auditeur a dit, on arrête quelqu'un. Dès qu'on se rend compte qu'il a le cannabis, par exemple, sur la route qui va de Kananga vers Luisa, les policiers l'arrêtent, bon, il garde à gauche à droite, il récupère la marchandise, tout de suite, le marché est libéré, mais ça devient la propriété des policiers, de ceux qui l'ont arrêté. Et là, je crois que l'équation se complique.
Non, il n'y a pas de complication, parce que le législateur a prévu à tous les niveaux comment on peut appliquer la loi. On est militaire, c'est vrai, mais on n'est pas né militaire. On devient militaire. On est d'abord civil et puis on devient militaire. Mais il y a la justice militaire. Nous appelons l'auditorat. Donc, si c'est un policier qui prend de la drogue, qui vend de la drogue, eh bien la justice militaire est là. Il faut que celui-là soit dénoncé. Le problème de Congolais, c'est la peur. On dit, mais si je dénonce ce policier ou qu'on l'arrête, après, qu'est-ce que j'aurai comme conséquence? Alors, si on a peur, on ne peut pas faire quelque chose de bien. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Si c'est un militaire qui consomme, la justice militaire est là, il faut dénoncer. Si c'est un policier, la justice militaire est là, il faut dénoncer. Si c'est un civil, eh bien, il y a le parquet. C'est comme ça que dans le comité, nous avons la justice militaire. Le vice-président du comité, c'est un colonel de la justice militaire. Donc, il faut que cette organisation aussi soit élargie jusqu'au niveau
des provinces jusqu'au niveau de la base. Voilà. Nous avons l'ingénieur Mangoyo qui est à Kinshasa. Bonjour, ingénieur Mangoyo.
Bonjour, Monsieur Pierrot.
Vous avez suivi les uns et les autres. Il faut beaucoup d'efforts, hein, comme l'a dit notre ami Jado. Il faut un travail de synergie pour vraiment venir à bout de ces fléaux qui gagnent la RDC, mais aussi les pays qui nous entourent ainsi que le monde.
Oui, Monsieur Pierrot, c'est un phénomène assez délicat. J'en profite d'abord pour saluer notre invité. Je salue également tous les auditeurs de Radio Capi et notamment les membres des clubs des auditeurs de Radio Capi disséminés à travers le pays. Monsieur Pierrot, c'est un sujet assez important. Je vous remercie pour ce sujet. Moi, j'habite Kinshasa, précisément à Malweka. Vous savez, d'après une petite enquête que nous avons menée dans le cadre d'une ONG, nous avons constaté que le phénomène Kuluna, à l'origine du phénomène Kuluna, se trouve être la consommation de la drogue, comme l'a si bien dit notre invité. Et c'est un problème assez délicat. cas chez nous ici. Mais qu'est-ce que nous constatons? Le seul quartier de Marweka, il y a plus de, je dirais même plus de 10 nganda de consommation de cannabis, couplé de l'otoko, sans compter l'alcool qu'on va à travers les rues. Et c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Les Kuruna qui opèrent la nuit, ces jeunes du quartier qui opèrent la nuit, ils consomment d'abord cet alcool, ils consomment le cannabis, les nganda sont connus ici, et après la nuit, vers 23h, parfois même un peu tôt, 22h, eh bien, ce sont des gens qui commencent à, ces jeunes gens commencent à opérer. Et gare à celui qui rentre au-delà de 23h, parce que c'est sans pitié. Ils sont postés sur l'avenue Nzolana, ici, pour ceux qui connaissent bien le coin. Vous dépassez le pont Moleka, vous remontez, et bien là, c'est extrêmement dangereux. Ils consomment le cannabis, le lotoko et le whisky qu'on va à travers les lunes pendant la journée et la nuit, ils opèrent. Mais ils le font au-dessus, au vieux au-dessus des policiers. Les policiers même vont aussi consommer ça dans les mêmes ngandas. Il n'y a pas longtemps, et nous connaissons des cas de décès, il n'y a pas longtemps, il y a un consommateur de l'otoko est décédé chez nous ici pour avoir consommé donc de l'otoko, il est mort. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté aussi? Les policiers n'agissent pas, parce qu'eux-mêmes aussi, ils sont consommateurs. Les chefs du quartier aussi n'agissent pas. Vous pouvez aller dénoncer, mais ils n'agissent pas. Alors, je voudrais poser la question très vite.
Oui.
Il a parlé de cette commission interministérielle à la tête de laquelle se trouve un homme en uniforme, un colonel. Mais sur le terrain, nous ne voyons pas les résultats. Moi, je pense qu'il faut, au niveau du gouvernorat, au niveau de la province, il faut que le gouverneur, avec une bonne volonté politique, puisse réunir les bourgmestres. Chaque bourgmestre doit avoir un programme. Ce programme-là, lui, à son tour, réunit le chef du quartier et les notables. Eh bien, on détecte tous ces sites-là, ces ngandas-là. Eh bien, on sensibilise les policiers. Et bien sûr, je suis d'accord avec notre invité qui a dit qu'il faut une sensibilisation. On prend des parlophones, comme on le voit avec la SNL et ainsi de suite. On sillonne les quartiers, on va essayer de prévenir et tous ces fumeurs-là, tous ces drogueurs-là. Et ensuite, on passe maintenant à la répression. Parce que ce qui fait défaut chez nous aussi, c'est la répression. J'ai entendu dire notre invité que les Congolais ont peur de dénoncer. Mais c'est tout à fait naturel, parce qu'aujourd'hui, ces endroits sont dangereux. Et lorsque vous, qui dénoncez, vous n'avez pas de garantie, il n'y a pas de sécurité pour vous, eh bien, on peut nuire à votre voilà. vie et à l'insu et aux vies aussi de tout le monde. Et donc, ce n'est pas que le Congolais ne veut pas dénoncer, les Congolais dénoncent, mais la répression sur le terrain,
problème,
on le voit.
Mais
pas.
Il faut aussi les sécuriser, c'est lui qui dénonce. Voilà, merci beaucoup, ingénieur Mangoyo. Voilà. Vous avez dit qu'il faudrait toute une politique au niveau des bourgmestres, associés aux notables, aux chefs quartiers, sensibilisés, passer à la réception, à la répression plutôt, parce que toutes ces maisons qui vendent, qui font consommer ces drogues aux jeunes qui deviennent des couleurs la nuit, sont connues et répertoriées dans les quartiers, sensibilisées, et puis procéder à la répression. Nous avons Madame Judith qui est à Kananga, au Kasaï occidental. Bonjour, Madame. Madame Judith, vous êtes avec nous, ensemble, bonjour. Voilà, on a perdu Madame Judith Descanangan pour la rappeler, avoir un témoignage d'une dame dans cette émission consacrée à la lutte contre la drogue. C'est très intéressant, on pourra revoir cela. Mais en attendant, nous avons Hadi qui nous appelle de Kindu au Maniema. Bonjour Hadi.
Bonjour Pierrot, bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute Hadi sur la lutte contre la drogue à Kindu.
Bon, par rapport à ce sujet-là, bon, ma contribution, avoir les bistrots, avoir des retrouvailles, avoir des ngandas, communément appelés, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, il y a une extrapolation des différentes retrouvailles. Pourquoi je le dis, Pierrot, c'est parce que ici, chez nous, à Kindu, vous verrez dans des ngandas, la consommation de la drogue devient une activité principale aux jeunes de la province du Maniema. Pourquoi? Parce que vous verrez quelqu'un qui travaille, un groupe de gens qui fait traverser les gens ici au beach, ils se disent que, en Swahili, que, bon, Muchango, Muchango, c'est que c'est, ça devient l'accoutumance, ça devient une activité principale, et cela devient mental, et c'est que c'est une maladie psychique à ces jeunes gens comme ça. Il travaille, après avoir travaillé, il se retrouve quelque part dans un ganda. Il consomme les loutoukou. Et il faut voir les conséquences aussi de ces loutoukou-là. Mm-hmm. Ça crée des maladies, mais les gens ne savent pas comme ça. Et il y a même les autorités qui participent aussi dans des ganda. Au moment où il y avait un arrêté provincial ici chez nous, le gouverneur avait interdit la consommation de la drogue aux mineurs. Il y a le mineur qui fréquentait même les bars, les ganda. Le gouverneur de la province aussi, à qui je l'ai salué en passant, il avait interdit de cela. Il avait dit non, à partir de 19h, si on retrouve un mineur dans un ganda, on l'arrête et on va poursuivre aussi ses parents. Parce que le mineur, eux là, mais les parents seront considérés comme les civilement responsables. Ils vont poursuivre les parents. Le gouverneur avait arrêté, il avait donné cet arrêté-là. Mais les gens ne sont pas avertis, ils étaient avertis, mais ils ne comprenaient pas, ils ne prennent pas les décisions. De ce fait, je demanderai au pouvoir local, c'est-à-dire aux autorités de la province, de continuer à serrer les vis, à la consommation de la drogue. Pourquoi pas, parce que cela a des dangers, il y a des dangers.
Merci.
Nous avons des cas ici chez nous à Kindou, mais nous avons des cas ici chez nous à Kindou, des exemples typiques. Il y avait un garçon en consommant de la drogue dans un ganda ici de la commune de Longoli. En consommant de la drogue, ils se sont battus avec son ami. Il y avait un accident là, Pierrot, qui avait créé des bagarres entre des familles. Pourquoi? Parce que le tuturé de ce ganda-là n'avait pas contrôlé même la majorité. C'est que il avait permis même aux mineurs de consommer de la bière. Il faut voir les airs aussi.
Voilà.
Les mineurs viennent là à
20h,
19h, ils se dispatchent à 0h, 1h du matin. Moment où nous avons aussi les autorités communales. Ils sont saisis de cette information-là, mais ils ne prennent pas de décision sur ces cas-là.
Merci beaucoup, Adi. Vous êtes à Kindou. Il y a eu un arrêté provincial interdisant d'ailleurs la vente de l'alcool aux mineurs et leur circulation après 19h, mais vous dites qu'il n'y a pas des suivis. Vous avez rejoint notre ami ingénieur Mangoye de Maluka Kinshasa qui a donné même les repères à l'endroit où il ne faut pas passer. Et là, il a insisté pour dire que le problème, c'est la répression qui pose problème sur terrain. Nous rentrons à Kananga. Madame Judith, vous êtes avec nous maintenant. Bonjour. Madame Judith, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Nous parlons de la consommation des drogues et autres substances toxiques dans votre milieu. Quelles sont les mesures à Kananga qui sont prises pour lutter efficacement contre ce fléau?
Les mesures, merci d'abord de m'avoir accordé la parole. C'est votre radio que j'aime beaucoup et que je suis tous les jours.
Merci.
C'est-à-dire, monsieur, ici à Kananga, nous sommes de la fondation Monde Sans Drogue, qui est basée à Los Angeles.
Mm-hmm.
Et nous avons voulu créer une antenne ici en République de démocratie du Congo. Et nous avons voulu commencer ici à Kananga. Pourquoi à Kananga? Parce qu'on a remarqué que à Kananga, comme le disait mon prédécesseur, qu'il fallait commencer la socialisation par les autorités, c'est-à-dire les bourgmestres et consorts. Mais ici à Kananga, c'est dommage, excusez-moi, s'ils m'écoutent parce que je travaille avec eux. Ils vendent aussi, ils consomment aussi les drogues. Même dans leur bureau, il y a d'autres bourgmestres qui sont des amis, et quand ils sont en train de parler, il y a beaucoup qui me suivent. Alors, ils vendent ça même dans leur tiroir des bureaux. Je ne les accuse pas, mon Dieu. Même des femmes mariées, parce que là, je sens que vous soulignez surtout le problème en ce qui concerne la jeunesse.
Mm-hmm.
Oui, la jeunesse, bien sûr, mais il y a aussi des femmes mariées. Et les autres, vous les trouverez même les soirs, le mari et la femme et les enfants en train de prendre les petits champas. C'est des drogues très graves. S'il faut parler du cannabis, allez du côté de Luisa. vous en trouverez, on en a cultivé, donc on fait mine de cultiver le maïs devant, mais derrière, là, c'est des hectares et hectares de cannabis. Et qu'est-ce que nous, on a fait à notre niveau?
Mm-hmm.
On avait commencé par sensibiliser d'abord, on a fait la caravane motorisée, notre président qui est présentement à Kinshasa a demandé à Los Angeles des brochures, la vérité sur la drogue, le cannabis, l'alcool, ainsi de suite. On a procédé par faire la caravane motorisée ici sur Kananga.
Mm-hmm.
Là, on a dit qu'on a fait passer le message, bien que la population continue toujours à en prendre. On a voulu, nous avons voulu le faire entendre au niveau national. C'est ainsi que notre président est présentement à Kinshasa. Il ne fait que faire des liens et vient pour rencontrer Monsieur le maire, Monsieur Kimbuta, pour que nous fassions aussi la même caravane motorisée à Kinshasa. Et on a expulsé, on a même envoyé 2 tonnes de documents pour appuyer la sensibilisation. Parce que arrêter les gens, c'est mieux. Conseiller les gens, c'est mieux. Mais ils peuvent, vous pouvez les arrêter, mais ils continuent à en prendre sous coulisses, dans des toilettes et partout. Mais peut-être nous, on a jugé bon de distribuer les brochures. Et aussi à la langue, si le gouvernement nous permettait, parce que partout dans le monde, notre fondation travaille de concert avec le gouvernement. Alors si le gouvernement acceptait, on peut aussi demander à ce que Los Angeles accepte à ce que nous puissions construire ici, dans sa province, les centres qui s'appellent le centre Nord-Conon. C'est-à-dire que ce sont des centres qui sont là. Là, je rejoins notre invité qui est là.
Mm-hmm.
On va construire ce centre pour nettoyer l'organisme des gens. Et si la personne est en train de suivre, le moment où la personne est dans le centre pour suivre le nettoyage ou bien la purification de l'organisme, il est soumis aussi à une formation pour qu'après il se retrouve avec un petit boulot pour qu'il ne revienne plus, s'il était Kuluna, il revienne encore pour revenir et devenir Kuluna ou autre. Donc c'est ma petite contribution.
Merci.
Si vous pouvez aider aussi notre président à votre niveau à Kinshasa pour qu'il rencontre Monsieur le maire, afin que nous puissions faire aussi le caravane motorisé, parce qu'il a tous les documents avec lui, 2 tonnes s'il vous plaît. Voilà ma petite contribution, monsieur,
merci.
Je vous remercie.
Merci beaucoup Madame Judith. Ce que nous allons faire, c'est nous avons notre invité qui est ici, le président du comité national. Après l'émission, je préfère que si l'invité le permet, de vous mettre en contact avec lui et puis voir comment aussi prendre contact avec le président de votre fondation, Monde Sans Drogue, qui est ici à Kinshasa, qui fait ses débats, pour avoir le contact avec le gouverneur de la ville et mener cette caravane motorisée, cette sensibilisation. Vous avez dit qu'il est en procès, qu'il a 2 tonnes de documents, des brochures à distribuer. Je préfère qu'à la fin de cette émission, nous puissions vous mettre en contact avec le président et voir comment coordonner tout cela. Merci beaucoup pour ces témoignages, et c'est très très important pour la ville de Kananga. Vous avez évoqué les territoires de Luisa, bien sûr, par beaucoup de cannabis qui sont cultivés là, officiellement, vous l'avez dit. Il faut beaucoup d'efforts au-delà de la répression, mais beaucoup de sensibilisation aussi. Merci beaucoup, madame, de ces témoignages de Kananga, au Kasaï occidental. Hilaire, vous êtes à Kwilungongo, c'est dans la province de Bakongo. Bonjour, Hilaire. Hilaire, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, moi, ma contribution, j'étais assez dans le trafic des drogues. Ici, vraiment, particulièrement aussi à Kwilungongo, je n'en parviens pas à comprendre. Il y a des sites là qu'on a fait pour commercer la vente des drogues, la vente des jambes et la vente des kichapas, la boisson alcoolisée. Alors, on ne comprend pas. Et ceux qui sont beaucoup concernés sur ces points-là, ce sont les jeunes gens de moins de 20 ans. Les jeunes gens de moins de 20 ans, ce sont eux qui achètent souvent et qui font souvent ce trafic-là, et ce sont les grands consommateurs. Alors, en voyant parlant, qu'est-ce qui peut trouver la solution de tout ce que je viens de dire là? C'est l'État congolais. Si peut-être la police congolaise se mettait justement au sérieux, prenait au sérieux leur métier et leur travail, ça pourrait diminuer un peu. Et pour preuve, quand Pierre était venu faire son concert ici, le géant drogueur, tout ensemble avec tout ce qu'on voit, je ne peux pas citer le nom, avec toutes les autorités, et il voyait tout ça, mais il n'interdisait pas. Alors, tout ce qui est à bord de tout ça, ce sont vraiment l'État congolais doit prendre ses responsabilités au sérieux et non peut-être condamner les autres. Parce qu'il y a de toute façon,
merci.
Si quelqu'un échoue dans sa part des responsabilités, il a tendance d'accuser les autres.
Merci, merci beaucoup Hilaire. Vous pensez que l'État doit prendre ses responsabilités dans la répression de ces cas, de cette situation à Kulungongo? C'est plus les jeunes qui sont concernés par le trafic de ces drogues. Nous allons écouter Valentin qui est à Kolwezi. On va revenir à notre invité dans ce studio. Valentin, vous êtes avec nous dès Kolwezi au Katanga. Bonjour Valentin.
Ok, bonjour beaucoup messieurs. Vous allez un peu m'excuser pour la voix. J'ai une petite toux là et je voulais apporter ma contribution. Je ne sais pas si vous m'écoutez.
C'est très bien, on vous suit bien malgré la grippe, mais je crois que ça peut aller. On vous écoute.
Ok, et je voulais placer mon... Je sais qu'il y a beaucoup de résolutions, beaucoup de lois, beaucoup d'arrêtés au sujet de des gens qui consomment la drogue, des celles qui vendent la drogue. Est-ce que cette histoire est... Est-ce que cette histoire est en train de ou soit encadrée? C'est ça le problème. Ça n'a pas commencé à partir de ce moment où nous parlons. Tout comme tout ce que nous avons parlé aujourd'hui. On ne sait pas si on va prendre ça en compte. Mais néanmoins, je voulais rejoindre la dame de Kananga. Qui a parlé de quelque chose là de très très important. Je voulais dire ceci. Je voulais par-dessus qu'on forme des comités dans tous les quartiers de lutte contre la drogue. Et dans ces comités, on trouve les gens de toutes tendances confondues. Et qu'on commence un peu à parler avec les gens qui fabriquent ça. Parce que ce sont les gens connus. On vit avec eux. Ils ne le font pas en catimini. Ça, on le sait. On les connaît bien. Et ceux-là qui consomment, ils consomment au vie et au sud de tout le monde. Et il y en a même dans des prisons qui consomment ça. Comment ils trouvent ça? Et il y en a même... je ne sais moi n'importe où. Ils sont en train de consommer ça. Ils trouvent ça où. On le sait bien. Maintenant, pour répondre, pour soit contribuer ou apporter une contribution à notre émission de ce jour, je voulais seulement dire qu'on puisse faire les comités dans tous les quartiers, dans toutes les communes.
Avec autant de personnes qui, de la société, les membres de la société qui doivent être impliqués dans cela, parce que ceux qui fabriquent sont connus, ceux qui préparent le loto sont connus, ceux qui vendent les cannabis sont connus, ceux qui consomment sont connus. Alors, vous pensez qu'il faut des comités dans tous les quartiers qui, où est-ce qu'on, où, dans lesquels on peut retrouver toutes les couches de la population pour aller vers tous ces gens-là? Vous pensez que cela est très important? Merci beaucoup. Nous allons aussi demander d'ailleurs à notre invité pour savoir si le comité national interministériel a des représentations jusqu'au niveau le plus bas. Parce que là, on a des témoignages, quand cela touche les agents de l'ordre, ça touche les autorités, ça devient très dangereux avec ces témoignages de Kananga. Raphaël, vous êtes à Lubumbashi, gardez la ligne, nous allons revenir à vous pour commenter ces sujets consacrés à la lutte contre la drogue. 081-890-43-39, c'est notre numéro d'appel pour intervenir en direct.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h, 15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Voilà, monsieur Pilimoke, vous avez suivi les uns et les autres. Hein. Il y a madame Judith de Kananga qui s'est dit, leur président est ici, s'il y a moyen peut-être de prendre contact avec eux, savoir ce qu'ils font et comment aider celui qui est à Kinshasa dans ce travail de lutte contre la drogue. Mais il y a un problème qui est posé par les auditeurs. Le premier, c'est de savoir si le comité est représenté jusqu'au niveau de la base, mais aussi le problème de la fabrication de boissons alcoolisées. On l'a vu à Kinshasa avec autant d'interdictions, tous ces petits flacons qui se vendent sur toutes les rues, les usines qui fabriquent, on les connaît. Est-ce qu'ils sont contrôlés, la quantité de l'alcool, le degré d'alcool dans ces substances, est-ce que tout cela est vérifié? Qu'est-ce qui est fait au niveau du pouvoir public? Parce que ça, c'est un danger permanent qui est avec nous. On connaît les usines qui fabriquent et comment on commercialise cela au vu au sud de tout le monde. Qu'est-ce que peuvent vos réponses par rapport à ces préoccupations?
Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais intervenir un peu pour madame Judith, qui est à Kananga, avant de répondre à votre question. Madame Judith peut se calmer, parce que nous sommes déjà en contact avec son président,
monsieur
Mouepou.
Voilà, ça c'est bien.
Qui est à Kinshasa. Et les 2 tonnes de dépliants sont déjà arrivées. l'autorisation de monsieur le gouverneur, il en a déjà, mais le problème, c'est les moyens financiers.
Voilà.
Vous voyez, c'est ça le problème.
Pour l'organisation de la caravane.
Voilà, pour l'organisation. Donc, madame peut se calmer. Alors, pour monsieur, notre ami de Malueka, il est vrai que la volonté politique joue un rôle très important. Nous sommes quand même dans les temps modernes. Il ne faut pas demander aux gens qui répriment, qui arrêtent les gens de le faire à pied. Il faut des moyens de transport. Il faut des moyens. Le comité est ici à Gombe. Pour aller à Malueka, vous allez vous déplacer comment? Il faut les moyens de transport. Donc, il faut que la volonté politique s'implique pour que ceux qui font la répression puissent être mobiles. Alors, en ce qui concerne toujours la répression, chaque jour, le comité arrête. Mais la ville est tellement grande, quand on arrête, par exemple, dans la commune de Kalamu,
c'est difficile que quelqu'un puisse connaître ça.
Si on ne montre pas la télévision, les gens ne le sauront pas. Mais montrer la télévision demande aussi les moyens. Ce n'est pas comme au Capi qui nous demande de venir parler au Félé et puis vous partez. C'est différent. Et je l'invite, s'il a le moyen, il peut venir le samedi à 11h. À la direction de la police judiciaire de parquet, communément appelée casier judiciaire, nous allons incinérer toute la drogue saisie. Alors, pour...
La représentation du comité au niveau du province,
oui,
au niveau de
Tarabas, justement, je voudrais venir. Nous avons fait un effort avec notre conseil technique qui circule à travers toute la République. Quand nous installons le comité, les gens sont vraiment de bonne volonté. Parce qu'ils ne veulent pas que les enfants soient vraiment déroutés, soient marginalisés. Mais le problème, le fonctionnement devient un problème parce qu'ils n'ont pas de moyens financiers. L'État n'a pas de maison partout, il faut louer un local pour qu'il y ait un bureau, il faut acheter des papiers, tout cela. C'est comme ça que nous avons des problèmes pour fonctionner comme il faut à l'intérieur du pays. Nous avons une seule cellule qui fonctionne bien, c'est à Kananga, mais dans la ville de Chikapa. Là, nous avons... compte tenu de la criminalité qui règne là-bas, nous avons installé un comité qui fonctionne là-bas, qui malheureusement est supporté par le président lui-même qu'on a mis là-bas. C'est le président qui paye le loyer.
J'ai travaillé avec ce comité, je me rappelle, plusieurs fois avec le président Kouata.
Avec le président Kouata, il paye le loyer lui-même et puis parfois, il y a ce qu'on appelle conflit de compétences. On sait que le comité est là pour lutter contre la drogue, mais laisser ceux qui luttent contre la drogue font leur travail. Mais nous voyons très souvent ceux qui n'ont rien à voir avec la lutte contre la drogue, parfois, parce qu'ils ont un certain pouvoir, eh bien, ils viennent les déranger.
On assiste à ces conflits-là, les cannabis arrêtés. On a été à Chikap dans un reportage, on a vu les cannabis arrêtés, les agents du parquet qui viennent pour confisquer les produits. C'est de l'anercimel, on assiste à ce genre de conflits.
C'est comme ça.
C'est qui ne facilite pas la tâche au comité.
C'est ce que nous disons. Laissez aux médecins chirurgiens de faire des opérations, laisser aux médecins oculistes de faire leur travail. Mais éviter cette confusion-là qui fait que ces conflits de compétences diminuent la bonne volonté du comité pour bien faire le travail.
Et voilà, avant qu'on écoute les deux derniers auditeurs, il y a cette question des usines qui fabriquent ces alcools, même ce qui est importé du côté de l'Est vers l'Ouganda, qui entre par Ouvira, par toutes les villes qui sont frontalières. Il y a un problème sérieux qui se pose dans le contrôle de ces produits.
Oui. D'abord, je voudrais vous dire qu'il y a une loi, je ne connais pas par cœur, une loi au niveau de notre pays qui interdit la fabrication des alcools à plus de 45 degrés. Dès qu'on voit ça, on saisit.
Mais est-ce qu'il y a le contrôle des qualités, ça le problème?
Et ça, c'est l'OCC. C'est la compétence de l'OCC. J'ai dit que chacun doit jouer son rôle. Donc, il faut que l'OCC mette à l'enceinte de ces sociétés-là le représentant pour bien contrôler. Parce qu'on peut mettre sur l'emballage, on dit par exemple 20 degrés.
Et pourtant, l'intérieur, ce n'est
pas 20 degrés.
Voilà.
Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Quand vous savez que cet alcool-là tue, comme on dit par exemple, le tabac tue, c'est marqué. Alors, Fumer est préjudiciable à
la santé.
Vous lisez, vous êtes un intellectuel, vous êtes conscient. Mais pourquoi vous continuez à fumer? C'est aussi un problème de l'offre et de la demande.
Mm-hmm.
Si vous vendez votre marchandise, votre alcool, que moi je n'achète pas, est-ce qu'on va continuer à vendre?
Non.
Je ne crois pas. Donc il faut que voilà. nous puissions refuser de prendre ce qui est toxique, ce qui est drogue, et puis les vendeurs vont se décourager, et puis on met fin.
Voilà, on écoute les deux derniers auditeurs parce qu'on va terminer cette émission. Maître Machaka, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Maître Machaka.
Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kassim.
Voilà, en une minute et demie, qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous dans la lutte contre la drogue, Maître Machaka?
Oui, alors.
Oui, Maître Machaka, vous êtes sur les antennes. J'ai dit ceci, nous n'avons pas beaucoup de temps. En une minute, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous par rapport à ces sujets sur la lutte contre la drogue?
Vous savez, monsieur, pour lutter contre la drogue, il faut faire l'opération en trois étapes. Premièrement, il faut d'abord combattre à partir de la source. Savoir qui va cultiver les champs, par exemple, qui sont autorisés, c'est-à-dire les services d'agronomie, les agronomes doivent d'abord descendre sur le terrain. Savoir qui est autorisé de faire la culture du chanvre et qui n'est pas autorisé. Et en deuxième lieu, c'est au niveau de la commercialisation de cette dernière. Nos services de sécurité doivent se mettre en marche pour savoir qui sont autorisés à faire le commerce de la drogue, qui ne sont pas autorisés. Et ceux qui ne sont pas autorisés, ils sont interdits catégoriquement et punis. En troisième lieu, il faut que nos églises aussi, nos hommes bien puissent s'impliquer en sensibilisant la population. Si religieusement, quelle est la conséquence de la drogue? Quelle est la conséquence de l'alcool sur le plan religieux? Je crois, si on essaie un peu de remettre la population congolaise, à remettre les âmes de la population congolaise, la conscience aux âmes de la population congolaise,
mais ça pourrait aller.
Je crois que ça peut un peu diminuer cette colonisation ou cette utilisation de la drogue au sein de la population congolaise.
Merci, Maître Machaka. C'est Pierrot qui a la présentation. Nous avons Kabacha qui est à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Bonjour, Kabacha.
Bonjour, je vais me résumer.
Je dirais
quand on a un État qui dysfonctionne à tous les points de vue, il est assez difficile de combattre la drogue parce que c'est déjà prouvé que même les autorités fument les chanvres. Donc je ne généralise pas. Il y a des autorités qui fument les chanvres. Et aujourd'hui, il semble que pour devenir autorité, il faut d'abord être intellectuel. Après, il faut être fumeur de chanvres ou être un drogué. Et ça, c'est déjà prouvé partout. Et alors, je dirais ceci, que le conseil, c'est de jeter... de jeter la responsabilité aux parents et à d'autres personnes et à la population. Et je vous demanderai, papa, que vous ne puissiez pas permettre à vos invités ou à d'autres personnes de jeter la responsabilité là où la responsabilité n'est pas. Parce que c'est l'État qui est le premier responsable et toute personne ne peut vouloir voir son enfant commencer à fumer des chambres ou bien et que son enfant soit célèbre dans la drogue. C'est tout, en tout cas, aucun parent ne peut le vouloir. Et nous savons que la chanvre aujourd'hui pollue toute la nature ici à Bukavu. Quand vous passez sur la route, c'est toujours l'odeur de chanvre. Et l'État ne voit pas, sauf la population qui voit et les ONG voient. Mais l'État ne le voit pas. Vous voyez que même les agents de l'ordre commencent aussi à fumer des chanvres. En tout cas, c'est assez difficile.
Pour vous, Kabacha, vous pensez qu'il ne faudrait pas apporter la responsabilité sur la population, mais il faut que l'État se saisisse des dossiers. C'est l'État qui doit travailler pour réprimer. C'est votre point de vue, mais vous êtes inquiet. Vous dites que si on cite les autorités prennent de la drogue ou fument du chanvre, ça devient très dangereux comme exemple au niveau de la société. Nous allons revenir à vous, M. Pinimoke, pour clôturer cette émission en deux minutes. Mais il y a aussi cette préoccupation par rapport à la culture du cannabis. On l'a dit, ça pousse à l'état sauvage, mais aussi on culture. Quelles sont les mesures? Faudrait-il sensibiliser ces populations, substituer la culture du cannabis par rapport à autre chose pour permettre à ce que cela puisse, pour qu'on puisse diminuer cela? Voilà un petit de ces préoccupations en deux minutes. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour la conclusion?
Merci bien. Pour la culture de cannabis, il y a ce qu'on appelle la méthode de substitution. C'est déjà fait à d'autres pays africains. C'est question que nous puissions prendre ce que nous faisons au sérieux et les Nations Unies peuvent nous aider. C'est-à-dire remettre à ces gens-là qui cultivent d'autres graines pour cultiver par exemple le maïs, le manioc, au lieu de continuer à cultiver
le cannabis,
le cannabis. Alors, pour conclure, la lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue, c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire d'un individu. On ne dit pas non, c'est le comité, c'est l'État. Non, c'est tout le monde. Parce que l'éducation de quelqu'un commence en famille.
Mm-hmm.
Quand en famille on est mal éduqué, ça va entraîner tout cela, la consommation de drogue, mm-hmm. la criminalité sous toutes ses formes. Donc que cette lutte-là puisse être prise au sérieux par tout le monde. Et c'est tout un processus. Il ne faut pas que nous puissions croire que nous allons mettre fin à la consommation de drogue, à l'abus de drogue, dans un bref temps comme ça. Mais il y a tout un processus. C'est pourquoi nous voyons la sensibilisation, la répression, la désintoxication, la réinsertion sociale. Que chacun, là où il est, qu'il joue son rôle. L'État doit jouer son rôle. Il faut la volonté politique, donner le moyen. C'est bien, peut-être, d'accuser les autres, mais comme j'avais dit, la répression ne peut pas se faire à pied quand nous sommes au 21e siècle. Ce n'est pas normal. Parce qu'il faut que l'État prenne les choses au sérieux, il donne les moyens financiers, il donne les moyens, parce que l'infraction de la drogue est une infraction matérielle. Il faut arrêter l'individu avec cette drogue-là en main pour le poursuivre. Et parfois, ça vous amène même à acheter. Pour vous ayez de preuves, pour acheter cette drogue, il faut l'argent. Merci. Donc je crois que l'intervention, la volonté politique
mm-hmm.
est vraiment Merci. Souhaitée pour que nous puissions réussir.
Merci beaucoup Monsieur Pinimoke pour avoir accepté notre invitation et commenté ce sujet avec nos auditeurs. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président national du comité interministériel de la lutte contre la drogue et expert de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes. Nous disons merci aussi à tous les auditeurs qui nous ont suivis et ceux qui sont intervenus. Nous allons nous retrouver demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine des paroles aux auditeurs. La journée internationale pour la résolution des conflits est célébrée chaque troisième jeudi du mois d'octobre. Et cette année, cela tombe le 21. Qu'ils soient armés, fonciers ou coutumiers, les différents conflits que connaissent la RDC troublent la quiétude, causent des ravages et constituent un frein au développement des communautés. Que proposez-vous pour une résolution durable des conflits en RDC? Nous allons nous retrouver avec vous demain. Mais vous pouvez déjà déposer votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci à J.R. Mungembo, Tatima Poukou, Jean-Noël Mokondo, Nicolas Ngaka pour la production de cette émission présentée par Pierrot et la Meji. Au revoir et surtout le programme continue sur Radio Capi.